Merci d'avoir choisi France Inter pour vous accompagner et vous informer en ce début de journée. Il est 7h. Le journal Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, avis aux retardataires. Dernier jour des soldes aujourd'hui, l'heure est au bilan pour les commerçants. Nous irons à Saint-Étienne. Les autres titres, Mariam.
Une décision très attendue des salariés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, celle de la cour d'appel de Bordeaux. Elle doit dire si la justice est compétente pour juger le motif économique qui justifie, selon la direction, la fermeture du site à l'automne. Un autre résultat attendu aujourd'hui, la quantité de plomb potentiellement toxique autour du site de Notre-Dame à Paris. Des associations et des syndicats se disent inquiets. Le Mexique s'apprête à ouvrir une enquête pour acte de terrorisme après la tuerie d'El Paso au Texas qui a fait 22 morts. Aux États-Unis, les opposants démocrates dénoncent l'absence d'action de Donald Trump pour mieux contrôler le port des armes. Enfin, on se demandera si les saisons ne sont décidément pas totalement chamboulées après les épisodes de canicule qu'on vient de vivre.
Les invités du 6-9 de l'été, 8h moins le quart, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot, et puis 8h20, la réforme de la justice des mineurs au sommaire du grand entretien avec Axel Vinasac, qui a réalisé un documentaire sur une adolescente qui échappe au placement en marchant pendant 3 mois. Et puis Jean-Pierre Rosenzweig sera avec nous, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, sur cette réforme de la justice des mineurs. Vos questions dès maintenant au standard 01 45 24 7000 ou alors sur le site de l'émission franceinter.fr.
France Inter. Dernières heures donc pour profiter des -60, -70%, dernier jour des soldes d'été. Aujourd'hui, les promotions auront duré 6 semaines. L'heure est désormais au bilan. Quel impact a eu le mouvement des gilets jaunes pour les commerçants pendant les soldes? La canicule a-t-elle fait fuir les clients qui auraient préféré rester au frais? Tiffany Ankoviak a mené l'enquête à Saint-Étienne.
Grâce au mur de pierre dans la boutique de prêt-à-porter où Elsa travaille, il fait naturellement frais. Mais en période de canicule, c'était beaucoup moins agréable. La jeune vendeuse n'a d'ailleurs pas vu grand monde hein, les jours où la température a frôlé les 40 degrés à Saint-Étienne.
Il fait chaud, donc les gens, ils n'ont pas bien envie de venir essayer.
Il y a la clim chez Annie et pourtant, elle n'a vu passer qu'une dizaine de clients par jour au plus fort de la canicule dans son magasin de prêt-à-porter pour hommes.
Il est vrai que pendant une forte période de solde, c'est quand même un frein. Hein.
Annie explique avoir perdu 20% de chiffre d'affaires sur la première semaine des soldes à cause de la canicule. Dans la boutique située juste en face, Valérie, la co-gérante, rappelle que la météo est toujours un facteur important pour les soldes.
Le temps, il fait beaucoup. Parce que quand vous avez de la pluie, tout ça, la canicule, oui. Mais en fin de journée, les gens étaient présents.
Et ce que Valérie préfère retenir de ses soldes, c'est le retour des clients dans le centre-ville de Saint-Étienne. Après les samedis, parfois déserts de ces derniers mois en pleine crise des gilets jaunes.
C'est pas non plus l'extase, mais les soldes nous ont redonné le sourire. Le beau temps nous a redonné le sourire.
Les commerçants de Saint-Étienne attendent désormais la braderie exceptionnelle de rentrée. C'était l'une des mesures souhaitées par la municipalité pour relancer le commerce de centre-ville. Tiffany Ankoviak, France Bleu Saint-Étienne Noir pour France Inter.
Un dernier espoir peut-être pour les 850 salariés de l'usine girondine Ford de Blanquefort, censée fermer en octobre. Ils se donnent rendez-vous aujourd'hui pour un rassemblement devant la cour d'appel de Bordeaux, car c'est là que se joue leur avenir aujourd'hui. Le tribunal doit se prononcer sur le motif économique avancé par la direction, mais fortement contesté par les salariés. En première instance, la justice s'était déclarée incompétente pour évaluer le bien fondé du plan social. C'est donc sur la compétence de la justice à évaluer le motif économique que la décision de la cour d'appel est fortement attendue, Fabien Cazot.
L'usine a beau être à l'arrêt depuis fin juillet, les ouvriers de Ford Blanquefort continuent de contester le motif économique du plan social. Selon eux, le site est rentable. Rapport d'experts à l'appui, ils estiment avoir toutes les cartes en main pour le démontrer. Encore faut-il que la justice se déclare compétente sur le sujet d'ici le 1er octobre, date programmée pour la fermeture définitive de l'usine. Un véritable compte à rebours dans lequel s'est lancé le secrétaire CGT du comité d'entreprise, Gilles Lamberson.
On a nos congés depuis le 1er août et ensuite le mois de septembre sera payé à la maison et ensuite les courriers de licenciement vont arriver avant le 1er octobre. C'est pour ça qu'on a quand même ce délai. On n'est pas encore licencié. Donc il faudrait que ce jugement permette de stopper ça.
Pour le moment, le tribunal de grande instance renvoie sur le conseil des prud'hommes, habilité à se prononcer sur les conditions du plan social a posteriori, une fois que l'usine aura définitivement fermé. Les syndicats, eux, ne veulent pas attendre, même si le rassemblement organisé aujourd'hui devait s'avérer modeste en pleine période estivale. Ils promettent de nouvelles actions dans les prochaines semaines.
Fabien Cazot, la Corée du Nord a tiré 2 projectiles ce matin au large de sa côte est, 4e série de tirs tir de missiles de courte portée en l'espace d'à peine 3 semaines. Pyongyang riposte aux exercices militaires prévus en août par la Corée du Sud avec les États-Unis.
Il est 7h05, Mariam aux États-Unis. Le bilan des 2 fusillades du week-end dernier s'alourdit.
Oui, 32 personnes en tout sont mortes en moins de 24 heures dans les 2 tueries d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio. L'auteur de la tuerie d'El Paso à la frontière mexicaine a clairement revendiqué un crime raciste anti-hispanique, un acte terroriste selon le procureur fédéral. Donald Trump s'est adressé à la nation américaine hier. Il a condamné le terrorisme intérieur, le suprémacisme blanc qui a sans doute d'ailleurs inspiré le geste du tireur texan. Mais pour autant, il n'a proposé aucune solution concrète. Rien sur le contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. Rien non plus sur une éventuelle interdiction des fusils d'assaut automatiques. Et cette absence de proposition concrète suscite de vives critiques dans le camp des démocrates, Grégory Phillips.
Barack Obama, généralement très discret depuis qu'il a quitté la Maison Blanche et qui se mêle rarement de politique, publie un communiqué cinglant dans lequel l'ancien président condamne ces politiciens qui, avec leur langage et leur discours, normalisent la peur, la haine et le racisme. Alors Obama ne cite jamais le nom de Trump, mais évidemment tout le monde comprend les allusions au discours de l'actuel président quand il affirmait par exemple que les Mexicains étaient des violeurs et des criminels. Réaction également du candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, qui hier soir sur CNN a pointé du doigt la responsabilité de Donald Trump. Il a rabaissé la manière dont nous nous parlons. C'est un jeu dangereux, conclut l'ancien vice-président d'Obama. Enfin, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé ses homologues sénateurs à se saisir d'une proposition de loi votée par la Chambre en février dernier et qui visait à renforcer le contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. Mais à ce jour, le Sénat, à majorité républicaine, ne s'est pas encore saisi du texte. El Paso, Grégory Phillips, France Inter.
El Paso, 22 personnes ont été tuées, dont 8 Mexicains. Conséquence, le Mexique ouvre une enquête pour acte de terrorisme. Une décision brutale en Inde et potentiellement explosive pour la région. Le gouvernement indien a annoncé hier la suppression de l'autonomie du Cachemire indien dans le nord du pays. Sujet sensible, zone tendue. Le Cachemire est aussi revendiqué par le voisin pakistanais. La décision annoncée hier a d'ailleurs été aussitôt condamnée par le Pakistan. Alors doit-on craindre un nouvel embrasement entre l'Inde et le Pakistan? Question posée à Christophe Jaffrelot. Il est chercheur au CERI et spécialiste de l'Inde.
Tout va dépendre de la façon dont les Cachemiris réagissent. Si on voit se multiplier les manifestations, si la jeunesse cachemiri descend dans la rue, alors on peut imaginer que les groupes djihadistes basés au Pakistan et qui ont le soutien de l'armée vont pouvoir s'infiltrer, envoyer certains de leurs militants de l'autre côté de la frontière en espérant y trouver un accueil particulièrement positif, et cela pourrait se traduire par la relance des attentats suicides. On en a eu un en février dernier qui avait tué 41 soldats indiens. On voit bien que le danger est toujours imminent, et si le contexte s'y prête, on peut voir une nouvelle forme d'embrasement se développer.
Propos recueillis par Valérie Crova pour France Inter. En Syrie, la trêve n'aura pas duré. Dans le nord-ouest du pays, à peine 4 jours, et les bombardements de Damas et de son allié Moscou ont repris à Idlib, région contrôlée par les djihadistes. Le retour des raids a surpris tout le monde, leur Stéphane.
Certains étaient venus chercher leurs affaires, d'autres espéraient retrouver un abri après des semaines de déplacement dans le nord de la province d'Idlib, près de la frontière turque. Les civils revenus au cours des derniers jours suite au cessez-le-feu dans le sud de cette région, près de la ligne de front, ont été pris au piège. Les raids aériens des armées russes et syriennes ont repris. Selon plusieurs activistes pro-opposition, les bombardements se sont concentrés hier sur la ville de Khan Cheikhoun, déjà durement touchée lors des 3 mois d'offensive qui ont précédé le bref répit. Au cours de ce cessez-le-feu éclair, des tirs croisés s'étaient poursuivis par intermittence. Ce qui se joue en partie à Idlib, c'est une lutte d'influence entre la Turquie et la Russie, 2 poids lourds dans le conflit syrien. Le sort des quelques 3 millions de civils du nord-ouest du pays dépend tragiquement de tractations politiques entre puissances étrangères. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Et les raids aériens quasi quotidiens ces 3 derniers mois ont fait pas moins de 800 morts d'après l'OSDH, ONG syrienne de défense des droits de l'homme, et 400 000 déplacés selon l'ONU. Retour en France, y a-t-il une présence de plomb anormalement élevée autour de Notre-Dame à Paris, près de 4 mois après l'incendie de la cathédrale? De nouveaux résultats de relevés mesurant la contamination au plomb autour du monument doivent être publiés aujourd'hui. Un collectif regroupant des représentants de différentes branches de la CGT ainsi que des associations dénonce le manque de communication autour de la pollution au plomb. Ils réclament une transparence totale. Ils redoutent des conséquences pour la santé de ceux qui fréquentent le lieu tous les jours, en l'occurrence une plombémie, un taux de plomb élevé dans leur sang. Jean-Élie Strapini, secrétaire national CGT du syndicat national des monuments historiques, dit avoir de bonnes raisons de s'inquiéter.
On a alerté sur la pollution qui pouvait y avoir à la Sainte-Chapelle et à la Conciergerie. Donc on a demandé à ce que des prélèvements soient faits. Il s'est avéré qu'à certains endroits, il y avait des taux de pollution assez importants et donc que les mesures de suivi médical soient étendues aux agents de la Conciergerie de la Sainte-Chapelle qui le souhaitaient.
Vous avez calculé votre plombémie ?
J'ai rien, ça va, mais c'est vrai qu'on est inquiet pour les collègues et certains ont des taux de plombémie différents qui sont en dessous du seuil d'alerte, mais c'est pas parce qu'on n'a pas dépassé le seuil qu'on n'est pas exposé que potentiellement on peut pas développer une maladie par la suite.
Le syndicaliste Jean-Élie Strapini, il répondait à Delphine Evenou. Si les relevés publiés aujourd'hui montrent que des rues plus éloignées de Notre-Dame sont polluées, elles seront fermées à la circulation, promet la mairie de Paris. Les travaux de dépollution du parc de Notre-Dame doivent débuter demain.
On reste à Paris, Maria, mais certains disent il y a vraiment plus de saison.
Oui, avec les épisodes de canicule qui nous ont fait perdre tous nos repères spatio-temporels. On se demande déjà si l'automne n'a pas déjà commencé dans la capitale, Pierre, mais pas que d'ailleurs. Vous les avez peut-être vus ou entendus, les feuilles mortes qui couvrent déjà le sol sous l'effet de la chaleur estivale. Un décor jaune-orange qu'on n'a décidément pas l'habitude de voir en plein mois d'août, comme l'a constaté Clément Paulin dans les parcs parisiens.
Près du square Marigny, dans le 8e arrondissement, Joël ramasse des feuilles mortes depuis plusieurs heures. D'habitude, pour cet agent d'entretien de la mairie de Paris, l'opération Feuilles, c'est en octobre.
Cette année, là, ça tombait un peu plus chaud, je crois, quand même, par rapport à la météo, quelque part, la sécheresse, je pense qu'il y a beaucoup contribué. On souffle les feuilles sur la chaussée pour que l'aspiratrice, justement, les prenne.
Ramasser les feuilles en plein mois d'août, ça s'anticipe. Cet été, les effectifs sont réduits, il a fallu s'organiser avec plus de matériel. Paul Simondon est adjoint au maire chargé de la propreté.
On a sorti, ce sont des machines spécifiques, des petits engins qui s'appellent des aspire-feuilles qui ensuite les envoient dans une broyeuse pour faire les endroits où il y a le plus d'accumulation de feuilles. Et là où c'est le plus gênant, ce sont sur les pistes cyclables parce que c'est là qu'elles dérangent le plus, qu'elles deviennent glissantes quand elles sont mouillées. Et donc, nous pouvons faire comme ça les pistes cyclables qui sont nombreuses à Paris.
Mais la chute des feuilles en août n'est pas vraiment un automne avant l'heure. C'est plutôt la conséquence de deux phénomènes. Nathalie Breda étudie l'adaptation des forêts au changement climatique. Elle explique le procédé.
La sécheresse a provoqué la régulation des arbres. Ils ont économisé l'eau. Comme là-dessus est intervenu deux épisodes de canicule, on a atteint des températures qui ont brûlé les feuilles.
Et l'autre problème, il est écologique, car sans feuilles, les arbres perdent plutôt que d'habitude leur rôle de récupération du CO2.
Voilà, on sait tout. Merci Clément Paulin. Reportage dans les parcs parisiens.